pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. L'Explorer de Supersonic Imagine. Jérémy Berkoff. C'était en juin dernier, à l'Académie des sciences, des arts et des lettres à Marseille, que j'ai rencontré pour la première fois Jérémy Berkoff. Il recevait ce jour-là le prix de l'Académie pour son nouvel appareil à la pointe de la technologie, l'Explorer. Nous avons parlé, échangé, et d'une manière très sympathique, il a accepté tout de suite l'idée d'une invitation à Judaïsme Pluriel. Depuis, nous nous sommes revus, il m'a invité à visiter sa société à Aix-en-Provence, d'où le nom de Explorer, voilà. Et voilà, nous sommes ce soir avec vous. Jérémy est ingénieur de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, ESPCI, avec spécialité acoustique. Il a un master en ondes acoustiques. Il est docteur en physique. Il a fait une thèse au laboratoire d'acoustique de Paris, de l'Université Paris 7, en collaboration avec le département recherche de Philips France. Il a été chercheur au CNRS et depuis 2005, c'est à Supersonic Imagine, à Aix-en-Provence, où il est d'ailleurs cofondateur, qu'il travaille désormais. Il est aujourd'hui vice-président de la société et à la charge de la direction scientifique et technologique. Jérémy parle l'anglais couramment, le portugais, puisqu'il a habité 8 ans à Sao Paulo, c'est ça ? Il parle chinois et l'hébreu. On va pas lui demander de faire de grandes phrases en hébreu, mais enfin. Voilà. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Mille fois merci d'être avec nous ce soir pour faire vivre à nos auditeurs ce qu'est la recherche et l'innovation, la création d'une société à la pointe telle que la tienne. Supersonic Imagine, et puis aussi merci de m'avoir si bien reçu à Aix-en-Provence.
C'était un plaisir et merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir.
Alors Jérémy, nous allons parler beaucoup d'échographie, en particulier de cet appareil super, mais peut-être qu'il faut commencer par les choses classiques, nous expliquer ce qu'est l'échographie classique.
L'échographie est destiné à faire, à filmer l'intérieur du corps humain. C'est d'ailleurs la seule modalité d'imagerie. Il y a l'IRM, le scanner, l'imagerie par rayons X. Toutes ces imageries-là ne font que des coupes et des images. L'imagerie échographique filme l'intérieur du corps humain. Elle filme les différents organes, la morphologie des organes. Et elle est basée sur l'émission d'ondes ultrasonores. Donc, c'est... On envoie des ondes ultrasonores, donc c'est des sons à très haute fréquence que l'oreille humaine ne peut pas écouter, ne peut pas entendre. Ces ondes se propagent dans le corps, elles butent contre des obstacles et elles reviennent sur la sonde échographique qui enregistre les signaux et ça nous permet de faire des images du corps humain, de l'intérieur du corps humain. Le principe, c'est ce qu'on appelle l'écholocation. Donc c'est le même principe qu'utilise la chauve-souris. Elle crie, elle émet des ultrasons. Dans le noir, elle ne voit rien. Et en fonction de ce qui revient de ces obstacles, elle sait se faire une cartographie de son environnement.
Ah ben ça, je ne savais pas.
Et ben, l'échographie, c'est exactement la même chose, tout comme le sonar d'ailleurs. Ça utilise les échos qui reviennent du corps humain, qu'on a émis, qui reviennent des obstacles, pour faire une vraie imagerie de la morphologie de l'intérieur du corps humain. On voit des organes, le foie, la rate, les reins. On regarde le sein, on peut tout regarder avec l'échographie.
Alors,
et d'ailleurs évidemment, les mamans savent ça très bien, et elles voient leur bébé lorsqu'elles sont enceintes évoluer, bouger.
Est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille?
Exactement. Elles entendent le cœur battre. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont connues du grand public aussi.
Alors, si j'ai bien compris, mais tu me corriges, je parle sous ton contrôle, on utilise deux informations. Un, c'est le signal reçu qui donne l'image de la cible, du foie, des reins, de ce qu'on veut. Et deuxièmement, le temps entre l'émission et la réception qui nous permet de savoir à quel niveau de profondeur dans le corps humain se trouve l'organe, c'est ça?
C'est tout à fait ça. C'est le temps de propagation de l'onde, le temps qu'elle met pour aller et revenir, qui nous donne la profondeur d'où vient l'obstacle.
Bon, voilà, c'est bien.
C'est exactement ça.
Alors, ça date, on en parlait... Avant de commencer l'émission, le premier échographe a été fait en 1951, donc par un ingénieur et un médecin anglais. Voilà. Et puis ça a continué. Et puis des échographes, maintenant, il y en a partout.
Oui, on a vu... les premières images temps réel, ça date de la fin des années 60.
Oui.
Puis les choses ont beaucoup évolué en termes de qualité. Hein. Si on regarde les images des années 60, on ne prend rien. Puis ensuite, la technologie a évolué. On a commencé à voir les écoulements sanguins avec l'échographie, ce qu'on appelle le Doppler.
Oui.
Et du coup, tout ça, ça a créé énormément d'intérêt autour de l'échographie, puisque ça permettait d'avoir un impact clinique assez fort, détecter des maladies, caractériser des maladies. Et puis tout ça aussi, c'est beaucoup miniaturisé avec le temps. Aujourd'hui, on trouve des échographes qui tiennent dans la main.
Ah bon?
Qui se branche sur un iPhone et vous faites de l'échographie avec. Donc, les choses évoluent à une vitesse extraordinaire.
Ah bon? Ah, ça, je savais, j'ai jamais vu. J'ai vu des échographes sur un chariot, bien entendu. On m'en a même fait des échographies. Mais comme tu dis, petit comme ça.
Il y a de tout. Ouais.
Ah oui. Ouais. Et avec une bonne résolution. Et...
Je ne vais pas vous dire que c'est aussi bon que la grosse machine. Un radiologue va utiliser une belle machine, mais ce sont des systèmes miniatures qui sont destinés à être. Beaucoup plus démocratisé et moins spécialisé.
Ah oui, d'accord, ça va. Ok, c'est-à-dire qu'un généraliste peut avoir un appareil
Absolument.
Comme ça.
Absolument, c'est fait pour. Ah bon. Et même peut-être à terme, le patient lui-même se fera sa propre échographie.
Ah bon, bon, très bien. Bon, alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'un échographe? Ben, y a une sonde. La sonde, elle a une importance, une grande importance. Il y a un système informatique qui va traiter le signal. Il y a une console de commande, il faut bien commander. Puis il y a un système de visualisation, c'est le moniteur. Mais alors, celui qui est dans la main, là, le moniteur, est tout est dedans
Tout est dedans, sauf l'affichage qui est fait sur le smartphone.
Ah oui, l'affichage, d'accord, ok. Bon, voilà. Il y a un terme qu'il faut donner, il m'a bien plu, c'est l'échogénicité. Alors, l'échogénicité, c'est la faculté plus ou moins grande, tu me corriges, plus ou moins grande des organes à retransmettre ce qu'ils ont reçu, c'est ça?
Absolument. Donc, quelque chose qui est très échogène réfléchit beaucoup les ultrasons et donc ça va donner quelque chose de très brillant sur l'image.
Oui.
Quelque chose qui ne réfléchit pas les ultrasons va se traduire par quelque chose d'obscur sur l'image.
Exemple, un os.
Alors, un os, c'est le mauvais exemple parce que les ultrasons se cognent contre la paroi et reviennent, mais ça pénètre très mal dans l'os. Donc, on fait pas d'image des os en échographie. D'ailleurs, on a rarement de l'image du cerveau parce qu'il faut passer la barrière crânienne et ça marche pas très bien.
Alors, puisque tu me parles du cerveau, j'ai lu quelque chose. J'ai lu que pour des bébés, des vraiment petits bébés, on peut faire une échographie sur la fontanelle et on dit que effectivement, peut-être avec ton appareil plus, on peut détecter des anomalies, etc., etc. Mais seulement pour des bébés, puisque la fontanelle...
Voilà, il y a un accès au cerveau qui est ouvert, il n'y a pas le crâne encore qui s'est formé ou qui s'est resserré.
Ouais.
Et donc, du coup, on peut mettre une petite sonde et analyser ce qui se passe dans le cerveau.
Mmh.
Et bon, l'échographie classique, la fontanelle, au travers de la fontanelle, existe, bien sûr. Et notre technologie aussi apporte énormément de choses. Il y a des choses qui sont faites par des laboratoires de recherche qui ont notre appareil, notamment l'Institut Langevin, qui font des très belles choses sur l'imagerie fonctionnelle du cerveau des bébés.
Bon, on va parler.
Et c'est un thème de recherche absolument passionnant.
Je suppose, oui, très bien. Bon, eh ben, écoute, on a à peu près tout dit, ou presque, sur l'échographie classique.
Oui.
Et puis maintenant, ben, on va parler justement de ton appareil, donc qui s'appelle.
L'Explorer.
Explorer, oui. Et alors, la technique, c'est quoi ?
Alors, la technique, la première technique qu'on a... Alors, deux mots de contexte. Donc, l'Explorer fait tout ce qu'un échographe classique fait.
Bien sûr.
Mais évidemment, fait beaucoup plus qu'un échographe classique. Et une des choses qu'il fait en plus, c'est ce qu'on appelle, ce qui peut paraître un peu barbare comme nom pour les non-initiés, c'est l'élastographie par onde de cisaillement.
Bon, bah, tu vas nous expliquer.
L'élastographie par onde de cisaillement, c'est... une réinvention de la palpation manuelle du médecin, qui est l'acte médical le plus ancien et le plus classique. Le médecin palpe le corps et les organes pour savoir si tout va bien ou s'il détecte quelque chose d'anormal ou de pathologique. Qu'est-ce qu'il cherche à avoir comme information en faisant ça ? C'est savoir si le tissu est bien souple ou s'il a, il sent sous ses doigts quelque chose de plus dur. S'il y a quelque chose de plus dur, alerte.
Alerte.
Donc, l'information qu'il cherche à avoir avec sa palpation, c'est, pour être très simple, la dureté du corps ou des zones de différentes duretés à l'intérieur du corps. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur l'échographe une imagerie de dureté du corps humain qui s'appelle cette fameuse élastographie par onde de cisaillement et qui va venir moderniser, numériser, réinventer la palpation avec une précision diabolique puisqu'on fait des images... de résolution inférieure au millimètre. On mesure quantitativement cette dureté. Et évidemment, c'est beaucoup plus fiable et reproductible qu'une approche subjective manuelle.
Voilà. Bon, alors, je sais qu'on a des auditeurs qui sont très curieux. Alors, une onde de cisaillement, elle est faite par quelque chose que vous avez vous-même inventé et breveté. C'est le Sonic Touch, c'est ça ?
Oui, c'est comme créer un petit doigt virtuel à l'aide d'ultrasons qui viendrait un petit peu chatouiller les tissus à l'intérieur du corps. Donc, on utilise des ultrasons pour venir un petit peu vibrer les tissus à distance.
Et donc, on les fait vibrer.
On les fait vibrer. Le tissu répond. Oui. Et donc, il y a une petite onde qui se crée de vibration.
Oui.
Et cette onde-là, eh ben, la façon dont elle se propage, si elle se propage vite, le tissu est dur. Si elle se propage lentement, le tissu est mou. Et donc, du coup, nous, on peut faire des cartes de vitesse, des images de vitesse de propagation d'onde qui revient à des images de dureté.
Voilà. Bon, alors, pour préciser encore les choses, ce qu'on essaye de mesurer, si tu me l'as appris et puis depuis j'ai un peu lu, c'est le module de Young.
Le module de Young est effectivement la grandeur qui permet de mesurer la dureté.
Voilà.
C'est comme une pression, ça se mesure en kilopascal. Et on fait des images sur un échographe, on voit des images qui sont des vraies images bidimensionnelles, mais qui sont quantitatives. Donc, en chaque point, on s'est donné la valeur en kilopascal de la dureté de l'organe.
Alors, en lisant les documents que tu m'as donnés, j'ai vu que vous avez fait des tests. Vous avez fait des tests de mesure d'élasticité par rapport à des mesures de référence et par rapport à des échantillons de gel pour vérifier si on est bien dans les cordes ou pas. Alors, première question, les mesures de référence, elles viennent d'où ?
Excellente question. Elles viennent de... on prend des petits échantillons et on les compresse à la main pour savoir comment ils réagissent. Et on a une expérience idéale de module Young qui est de je comprime et je vois de combien ça se déforme.
Ah bon.
Évidemment, on ne peut pas faire ça là, avec les tissus humains. On ne peut pas extraire un bout et le comprimer. Ça serait un petit peu trop invasif. Mais oui, c'est ça la technique de référence.
D'accord. Et puis alors, vous avez des mesures de référence et pour vérifier l'appareil, eh bien, vous avez fait des échantillons de gel. qui correspondent à différents organes. Et puis, vous avez comparé.
Voilà, et on a validé qu'on sait mesurer la dureté à distance avec un échographe.
Alors, ça, c'est un premier élément de cet appareil. Il y en a un deuxième, c'est la vitesse.
Oui, et c'est la base qui a permis de faire de l'élastographie d'ondes cisaillement. C'est la base technologique, je dirais. C'est ce qui nous différencie de tous les échographes du marché. C'est qu'on fait de l'imagerie ultra rapide. Donc un échographe, je vous ai dit, filme le corps humain.
Oui.
20 images par seconde. C'est comme un film. Notre échographe peut filmer le corps humain à 20 000 images par seconde. Donc c'est 1000 fois plus rapide que ce qu'une caméra peut faire. Mmh. Et donc on a un outil absolument incroyable pour aller voir l'intérieur du corps humain à une vitesse que personne d'autre n'a jamais utilisée. Donc c'est un outil de recherche incroyable et c'est un outil qui nous permet de développer des choses qui ont un sens clinique, qui vont aider le médecin à mieux diagnostiquer les maladies. Voilà. Donc c'est la base technologique de tout ça. Je vous donne un exemple d'utilité clinique de l'élastographie. Le sein, le cancer du sein. Ça va peut-être parler à certaines de vos auditrices. Si vous avez plus de 50 ans, vous faites un dépistage à la mammographie. Si on voit quelque chose à la mammographie, ce qui se passe très probablement, voilà, c'est une échographie et une biopsie. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que dans 80% des cas, les biopsies sont négatives et on dit... Madame, rentrez chez vous, tout va bien. Bon, on a au passage créé un stress à la voie psychologique et physique, puisqu'on est allé prélever un morceau du sein pour l'analyser. Et au final, c'est inutile. Donc, l'élastographie est là pour permettre ce diagnostic de bénignité, de dire tout est normal, tout va bien, madame, sans faire de biopsie.
Oui.
Et on a montré que dans plus de 50% des cas, ça permet d'éviter la biopsie. Donc voilà, ça, c'est un premier élément très concret. De manière analogue, c'est aussi un outil pour détecter des cancers du sein que les techniques classiques n'auraient pas vu. Mmh. Et donc du coup, c'est aussi un outil qui peut sauver des vies pour voir des choses que les autres n'ont pas vues auparavant. Donc dans le sein, ça a son utilité, clair. Et c'est cliniquement clair. Démontré. L'histoire est la même dans le foie. Mmh. Si vous voulez savoir si votre foie est malade, on vous plante une grosse aiguille dans le ventre, on vous extrait un bout de foie et on l'analyse. C'est une biopsie du foie. Mmh. C'est douloureux, ça peut avoir de fortes complications, même ça peut être grave. Voilà, tout ça pour savoir si vous êtes malade ou pas. Là, avec notre échographe, on peut regarder... grâce à la dureté, et voir si le foie est malade ou pas. Et donc, pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'étais en Israël, et j'ai visité l'hôpital privé d'Assouta, à Tel Aviv. Et donc, ces gens-là se sont équipés de nos machines pour toutes les échographies du foie, de la thyroïde et du sang. Et ils nous disaient, et ça nous, évidemment, ça nous a fait plaisir, et ça a fait plaisir, forcément, l'impact patient est très positif. Ils nous disaient qu'ils ne faisaient plus aucune biopsie du foie depuis qu'ils avaient notre appareil.
Ah oui. Voilà. Alors, je te pose une question. Tu as parlé du sein, et moi, ça m'a rappelé des choses, et je pense que maintenant, c'est terminé. J'ai connu beaucoup de cas où on avait fait l'ablation d'un sein en soupçonnant un cancer. Et à la napate, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien du tout. Et il y a beaucoup de femmes qui ont été mutilées comme ça. Je suppose que maintenant, avec cet appareil, c'est terminé, ça.
L'imagerie médicale progresse tous les jours. Donc, ce sont des cas, évidemment, qui sont regrettables et qui existaient. Plus la technologie avance, moins il y a ces cas-là. Et évidemment, plus on ajoute ce genre de nouvelles informations pertinentes cliniquement, plus on évite ce genre de cas, évidemment. L'idée, c'est d'être le moins invasif possible et de détecter les choses en amont lorsqu'on n'a rien fait à la patiente.
Alors, j'ai un autre cas, une autre question à te poser. Il y a quelque temps, peut-être un an et demi, j'ai fait une émission avec un médecin, un professeur de la Timone, dont le rôle était le suivant, une spécialiste, vraiment très spécialisée. Lorsque quelqu'un a une tumeur au cerveau, il va falloir l'opérer quand c'est opérable, bien entendu. Mais avant de l'opérer, il va falloir faire une recherche autour pour vérifier si, pendant l'opération, on ne va pas supprimer des fonctions importantes. Oui. Est-ce que votre appareil peut répondre à ce genre de questions ?
Oui. Oui, oui. Il y a eu des recherches qui ont été faites qui montrent que l'imagerie de dureté permet de très bien localiser les tumeurs lorsqu'on est à crâne ouvert en opération. Maintenant, c'est des études cliniques. C'est pour des gens très spécialisés.
Oui.
Et c'est, voilà, c'est du très haut de gamme, quoi. C'est très, les choses les plus courantes ce qu'on trouve le plus en termes de pathologie.
Bien, on fait une petite pause musicale.
Avec plaisir.
Une petite pause.
Shalom, Malachi, Shalom.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Judaïsme pluriel et je vous rappelle que ce soir avec Jérémy Berkoff, nous parlons de sa société et de son super appareil, un échographe révolutionnaire qui s'appelle
Explorer.
Explorer. Voilà. Explorer X-A-I-X. Il faut le dire.
Pour indiquer son lieu de naissance.
AX. Alors, Jérémy, c'est toi qui as choisi cette première pause musicale. C'est Avishai Cohen, bien sûr. Pourquoi ?
On a été souvent avec ma femme dans les concerts d'Avishai Cohen. Et je dois dire que c'est la performance d'Avishai Cohen en live sur cette musique en particulier est assez étonnante. Et du coup, on a gardé un petit coup de cœur pour cette chanson. Et voilà, donc ça faisait partie de mes choix.
Ah ben, je comprends tout à fait. Tu sais, ma fille, pendant un certain temps, bon, maintenant elle s'est arrêtée parce que d'autres problèmes, elle a suivi Avishai Cohen dans tous ses concerts en France. Où il était, elle allait l'écouter.
C'est pas mal, nous on a fait le sud de la France. Mais... bon. Elle a raison.
Alors, on a parlé d'échographie classique, on a parlé de cet appareil qui est muni du principe d'élastographie plus la rapidité d'acquisition, 20 000 images par seconde, c'est très important par rapport à 200. Maintenant, je voudrais que tu nous parles un peu de cette création d'entreprise, puisque tu es le cofondateur, et c'est en 2005, je crois, que vous avez créé la société. Alors, qu'est-ce qui t'a piqué pour pouvoir créer, pour pouvoir te lancer dans cette innovation ?
Alors déjà, je n'ai pas été piqué tout seul, puisque on était une équipe de 6 personnes, 6 fondateurs, et j'étais entouré de gens absolument brillants. 3 qui étaient, dont je faisais partie, qui étaient du côté académique. Donc en l'occurrence Mathias Fink et Michael Tanter qui étaient mes encadrants de thèse à l'époque, puisque moi je faisais ma thèse sur l'imagerie ultra rapide et l'élastographie. Et à cette époque là l'élastographie était un domaine qui était déjà assez connu dans le domaine de la recherche, mais qui n'avait rien converti en termes d'applications cliniques et de produits. Et au moment où on a mis cette technique au point, on a vraiment senti qu'il y avait un coup à jouer. Parce que ça venait vraiment compenser les faiblesses de ce qu'il y avait fait jusqu'à présent et ça faisait résoudre des problèmes cliniques concrets. Et donc du coup, on s'est dit, là, il y a un coup à jouer, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un produit. Et là, j'ai le droit de le dire, il y a prescription, mais la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir Philips et on leur a dit, voilà, on a un truc sympa, puisque ma thèse était co-encadrée par Philips. Est-ce que ça vous dit de le valoriser et de faire quelque chose avec ? Et bien, ils nous ont dit, en gros, c'est sympathique, mais
pas trop intéressant.
Voilà, on n'a pas que ça affiche. Ouais. Il faut dire à leur décharge que l'époque 2000-2005, c'était une époque où l'imagerie médicale était en pleine période de concentration. Il y avait les gros qui mangeaient les petits.
Oui,
et donc les gens étaient en train de s'occuper de réorganisation et n'avaient pas trop la tête à l'innovation. Ouais. Et conséquence aussi de tout ça, c'est que les gens qui étaient au poste important chez Philips en ont eu un petit peu marre de ça. Et on a rencontré à l'époque Jacques Souquet, qui était le directeur scientifique de Philips Médical.
Oui.
Quand on lui a présenté ses travaux, il s'est dit banco, on va tenter l'expérience. Et donc il est venu avec Claude Cohen-Bacry aussi, qui était chez Philips Research. Et on a monté cette petite équipe à la fois académique et à la fois industrielle, avec une expérience en recherche, une expérience déjà avec de la route.
Oui.
En termes d'industrie dans l'imagerie médicale, on a créé cette petite équipe et on s'est lancé un petit peu inconsciemment dans cette aventure. On n'était absolument pas sûr que ça marche.
Bien sûr.
On avait juste une preuve de concept sur les fameux fantômes calibrés dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Mais à part ça, on n'avait pas grand-chose. Donc on s'est lancé et je pense que la seule chose qui nous a caractérisé, c'est un petit peu cette inconscience et puis le fait de se retrouver entre gens qui s'apprécient énormément et puis une volonté très très forte au départ que ça réussisse.
Alors vous étiez 6 au départ, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Voilà, et puis en quelques mois, grâce à l'expérience de Jacques notamment, on a pu lever de l'argent.
Oui.
Bon, il faut dire qu'on est venu avec des brevets, hein. Je veux dire,
Oui.
la recherche a donné lieu à des brevets
Vous aviez
déposés
des
par...
brevets personnels alors?
Non, c'était déposé par le CNRS, puisque
Ah, par
la
le
recherche
CNRS.
était aussi
Ah, d'accord.
encadrée par le CNRS, financée
Oui.
par le CNRS, donc c'était un brevet CNRS. Et donc en démarrant la boîte, on a pris une licence du brevet et on a levé de l'argent
D'accord.
pour construire d'une feuille blanche
Oui.
un nouvel échographe qui, lui, ne serait pas rapide, mais ultra rapide, et qui ferait cette fameuse élastographie par exemple, de cisaillement. Et on a mis allez, 3 ans et 10
Ah,
millions
voilà.
d'euros à faire le
3 ans
projet.
et 10 millions d'euros.
Ouais.
3 ans, c'est pas beaucoup pour arriver à une telle
Non, c'est pas
performance.
beaucoup. C'est la force des petites entreprises. Si on fait la même chose dans un gros groupe,
Oui.
c'est 10 fois plus cher et il faut 10 fois plus de personnes.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Donc il y a cette force-là et l'agilité des petites équipes. Bon, après, ça a aussi ses inconvénients, puisqu'on
Bien sûr, mais
on n'a pas la force
bon.
de frappe des gros, mais on
Mmh.
a nos atouts.
Et vous étiez déjà installé à Aix ou ça
On a
commençait?
débarré la société à
Ah, à Aix,
Aix-en-Provence. Ouais.
là où je suis venu alors.
Tout à fait.
Ah oui, d'accord,
Pas
ok.
exactement dans les mêmes bureaux, mais
Oui,
voilà.
bien sûr. Ah ben oui,
On a
parce qu'il y a les
démarré dans
bureaux
20 mètres carrés,
maintenant.
maintenant, on
C'est
a
autre chose.
trois bâtiments. Ouais. Et
C'est
puis,
sûr.
un autre point important aussi qu'il faut souligner, c'est que l'écosystème pour l'innovation en France, contrairement aux idées reçues, est très favorable. Il y
Ah
a
oui.
plein de choses pour nous aider à faire des boîtes.
Ah oui.
Et il y a des, il y a, il y a, à l'époque, c'était Oséo, aujourd'hui, c'est la Banque publique d'investissement, la BPI,
Oui.
qui aide énormément, qui accompagne énormément d'un point de vue financier les jeunes entreprises qui veulent se lancer.
Ils acceptent de prendre des risques alors.
Bien sûr, bien sûr.
Ah bon?
Il y a des statuts, il y a un statut fiscal qui était la jeune entreprise innovante qui est extrêmement avantageux pour les jeunes sociétés qui démarrent. Il y a aussi la possibilité de nouer des relations avec le laboratoire en question à l'époque, qui
Oui.
permet aussi d'aider la société dans sa preuve de concept et le développement de son produit. Ça, c'est
Oui.
essentiel. Et puis, il y a le fameux crédit impôt recherche qui permet en fait d'avoir de la recherche et développement de très très haut niveau, très peu cher. La France est un des pays où la recherche et le développement est parmi les plus compétitifs en termes de coûts et parmi les plus hauts niveaux en termes de.
Ah ben ça me fait très plaisir que tu le dises. Et j'espère que nos auditeurs vont bien bien l'entendre parce que c'est quelque chose d'extrêmement important.
C'est important, et puis on a souvent tendance à dire la France, la France, la France.
Oui,
En
ben
fait,
c'est
non, il y
ça.
a beaucoup de choses en France qui sont
Mmh.
très très positives pour faire des nouvelles choses.
Alors, vous étiez un groupe de 6, on va dire, techniciens de très haut niveau, bien entendu. Mais pour mettre au point cet appareil, il a fallu aussi travailler avec des équipes médicales, avec des hôpitaux, non? Comment?
Absolument.
Alors, explique-nous tout
Donc
ça.
c'est un pour y arriver, il faut un trio magique, je dirais. Il faut une composante scientifique et recherche forte.
Mmh.
Et les chercheurs qui ont créé l'invention sont les seuls qui ont cette connaissance pour créer de l'innovation. Si on ne les associe pas à cette création de société et si on ne les associe pas à ce développement, on n'a rien compris.
Et
Voilà.
oui.
Donc ces gens-là, il faut les associer. Il y a un côté, évidemment, industrie-business qui est fondamental. Il faut une expérience pour éviter de faire des erreurs. Et ça, on a eu la chance que les bonnes personnes arrivent au bon moment. Et entre les deux, il faut un partenaire clinique qui y croit. Parce qu'au départ, il n'y a rien d'évident, c'est compliqué. On fait
Oui.
des expériences assez ubuesques.
Oui.
C'est assez compliqué. Et donc, il faut des gens qui vraiment ont la foi. Et ces gens-là, au tout départ, c'était l'Institut Curie, hein,
Ah,
à Paris.
d'accord. Mmh.
Et c'était aussi et je le salue, c'était le docteur Ami qui est à Aix-en-Provence, qui a cru en nous très tôt et qui nous a aidés, notamment sur le sein, à développer cette machine. Donc l'Institut Curie a été aussi un partenaire à la fois de l'Institut Langevin Supersonique Imagine pour aider à la mise au point clinique de cette nouvelle imagerie.
Et vous arriviez à avoir le même langage entre médecins et techniciens de haut niveau, vous compreniez bien ou ça a été quelquefois peut-être un peu difficile?
Non, parce qu'il y a ce genre de centre de recherche clinique, ils ont la culture de la recherche.
Oui.
et des laboratoires à la fois au CNRS et à l'INSERM, tels que l'Institut Langevin, ont aussi cette culture clinique très marquée,
Oui.
cette volonté d'aller jusqu'à l'application clinique et de ne pas rester uniquement dans son laboratoire. Donc au final, ce n'était pas si compliqué que ça.
Ah bon. Donc c'est quand même une aide très très précieuse d'avoir travaillé avec ces
Voilà,
gens-là.
c'est le trio qui fait que ça
Oui,
marche.
c'est le trio qui me prend. C'est bien. Et qui est-ce qui a été celui qui a mis en contact avec l'Institut Curie, c'est toi, c'est d'autres, et vous avez proposé votre travail, c'est
Mais
tout?
en fait, c'était naturel parce que l'Institut Curie était déjà en train, à l'époque où moi j'étais chercheur et on faisait nos recherches, on ne parlait même pas de supersonique, imagine, l'Institut Curie était déjà intéressé par nos travaux.
D'accord, ok,
Donc
je comprends
c'était
bien.
quasiment une évolution naturelle.
Parfait, parfait.
Voilà.
Bon, et donc vous avez créé cette société, premier appareil en 2009.
Premier appareil en 2009. Alors, entre 2005 et 2009, il y a deux choses fondamentales qui ont été faites. C'est un, la conception et la construction de cet appareil, mais c'est aussi sa validation clinique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir sur le marché en disant, regardez, j'ai quelque chose de nouveau, débrouillez-vous.
Oui, bien sûr.
Il faut arriver avec un certain bagage en disant, voilà, ça aide là, 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 et il y a des preuves. Et donc, on a investi beaucoup d'argent pendant cette période-là à faire des études cliniques, en particulier sur le sein. On a impliqué 12 sites aux États-Unis et en Europe pour démontrer que cette imagerie apportait quelque chose. Et c'était l'exemple que je vous ai donné au début,
Oui.
c'est-à-dire qu'elle a aidé à réduire le nombre de biopsies du sein.
Oui.
Et ça a été une aide extraordinaire lorsqu'on a introduit le produit sur le marché, puisqu'on avait une preuve d'utilité.
Et donc vous avez commencé donc dans ce domaine-là, le sein.
On a commencé sur le sein,
Oui,
et
d'accord.
puis ensuite, sur les années qui ont suivi, on a vraiment étendu ça sur pratiquement tous les organes du corps humain. Donc le sein, le foie, la prostate, la thyroïde, les reins. Voilà, il y a plein d'applications
Vasculaire aussi, tu m'as dit.
Alors oui, bien sûr, le vasculaire, je vous ai dit, alors c'est pas de l'élastographie, mais comme on fait 20 000 images par seconde, on a une précision incroyable pour aller visualiser les écoulements sanguins. Et donc on voit en direct le sang avancer dans les artères.
Oui.
Et l'exemple le plus frappant, c'est au travers de la carotide. Donc
Oui.
la carotide nourrit le cerveau en sang. Et donc nous, on peut imager le sang qui se propage de la carotide vers le cerveau. Et donc en imageant cette vitesse de propagation du sang, et bien cette vitesse, elle dépend de la qualité de la tuyauterie.
Ben
Donc est-ce que votre artère est en bonne santé ou pas? Et si elle n'est pas en bonne santé, bien cette vitesse, elle va vous indiquer qu'elle va être caractéristique. Elle va caractériser cette mauvaise santé. Donc c'est un indicateur de la qualité de votre tuyauterie ou de votre système cardiovasculaire.
Alors, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça remplace l'angiographie classique, qui est d'ailleurs un examen difficile, hein, on inocule de l'iode,
Oui.
enfin c'est vraiment dur,
Non,
ça je
ça
connais.
remplace pas, mais c'est très complémentaire.
C'est très complémentaire. Bon, très bien. Et je suppose que là aussi, vous avez travaillé avec des équipes médicales, pour valider déjà les systèmes, non?
Là, on est dans une phase plus amont, c'est-à-dire que on a mis sur le marché cette modalité, et puis il y a des études qui sont en cours pour prouver l'intérêt clinique. Donc, c'est des choses qui sont en cours, ça.
Alors, 2009, premier appareil. Est-ce qu'il y a des dates clés jusqu'à aujourd'hui pour des sorties
Bien
de nouveaux
sûr.
appareils quelles sont
De
ces dates clés?
2009, premier appareil. Et première vente en France,
Première vente en France, où est-ce que ça s'est passé?
c'était à Grenoble.
Ah bon?
Autorisation 2011-2012, autorisation de mise sur le marché de notre innovation aux États-Unis. 2014, introduction en bourse de la société. 2018, lancement de la nouvelle génération de produits qu'on vient de faire il y a un mois et demi au silo à Marseille.
Un silo à Marseille. Tu m'as invité, mais malheureusement, j'étais à la
c'était
radio.
Un mercredi soir.
Pas
c'était
venir.
Un
voilà. mercredi soir. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce lancement?
Ben c'était un lancement à la fois pour nous, pour l'équipe, pour dire on y est arrivé, et à la fois aussi pour le monde extérieur, en disant voilà, on arrive avec une nouvelle génération d'échographes ultra rapides qui va apporter plein de nouvelles choses. Donc on a eu des médecins, on a eu des journalistes, on a eu des partenaires, des distributeurs. C'était une très jolie fête.
Il y avait des grands donneurs d'ordre, des hôpitaux, des...
Il y avait des hôpitaux, oui, bien sûr, mais bon, c'était un événement, voilà, d'annonce. C'était pas un événement à vocation commerciale du tout.
Ah bon, d'accord, ok. Bien, on fait une petite pause musicale encore.
Allez, avec
on y va. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Judaïsme pluriel et je vous rappelle qu'avec Jérémy Berkoff, nous parlons d'un échographe super révolutionnaire. Voilà. Alors, on a abordé la question technique, on a abordé, c'était fort intéressant aussi, la mise en place, la création d'une entreprise, la puissance pour pouvoir arriver à ses fins, etc. Et puis maintenant, voilà, on a mis au point des appareils. Et alors, comment fait-on pour prendre une place de marché, pour se faire connaître et pour vraiment, maintenant que l'appareil est validé, imposer, c'est peut-être un grand mot, faire choisir cet appareil puisqu'il amène énormément de choses. Alors, comment vous avez abordé la question de la commercialisation ? Est-ce que, parce que vous étiez tous des techniciens de haut niveau, bien sûr, peut-être pas vraiment des commerciaux de haut niveau, je ne sais pas, comment avez-vous fait ?
Là, je vais vous décevoir par la simplicité de la réponse. On a recruté des commerciaux de haut niveau, des gens qui savent vendre parce que c'est un métier.
Oui, bien sûr, c'est un métier.
Qui ont un peu cette culture de l'aventure puisque rien n'est gagné. On n'est pas assis sur un tas d'or et ça se vend automatiquement. Il faut aller arracher les ventes au départ.
Oui.
Mais avec des gens qui ont ce profil-là, ça marche.
Mais il faut aussi que ce soit des gens qui connaissent un peu la technique, qui aient pu comprendre pour pouvoir l'exposer, pour pouvoir l'expliquer, ou alors simplement ils prennent des contacts et après c'est vous qui allez pour exposer la chose. Comment ça se passe ?
Ben, au départ, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que la R&D mouille le maillot et va même sur les sites pour essayer de promouvoir un petit peu cette technologie nouvelle.
Oui.
Et au fur et à mesure, la force de vente se forme, comprend, comprend comment vendre et comment positionner l'innovation et après elle devient autonome. Donc c'est un continuum, ça se fait sur le tas en fait.
Est-ce que les commerciaux vous ramènent à vous tous les chercheurs des informations qui peuvent être utiles dans la mise au point de certaines choses ou pas ?
Ah bien sûr, non bien sûr, c'est à la fois fondamental d'écouter le client et d'écouter les commerciaux qui sont sur le front pour corriger ce qui ne va pas, pour améliorer, pour développer des nouvelles choses. Et c'est aussi une façon de nous différencier parce que quand vous êtes très réactif vis-à-vis des clients, parce que vous êtes petit, parce qu'il y a des canaux de communication qui sont rapides, efficaces, directs, ça va
ça
vite
marche,
et donc
oui.
Du coup c'est une façon aussi de nous différencier par rapport à des très grosses structures où il faut 6 mois pour que l'information remonte jusqu'à
j'ai connu ces choses là moi aussi durant mon travail dans la... ces commerciaux vous les avez formés je suppose à vos techniques?
Oui.
Ils viennent chez vous, ils se forment pendant quelques temps et puis après ils partent dans la nature ou...
Mais au départ, oui, au départ, on a une structure qui est... On s'est organisé comme une boîte d'imagerie médicale, c'est-à-dire qu'on a une recherche-développement, on a un département de recherche et développement, on a un département marketing qui est censé élaborer la stratégie de vente et définir ce discours commercial, et on a une force commerciale.
Oui.
Et donc cet enchaînement-là fait que ça fonctionne, il n'y a rien de révolutionnaire. Après, il y a peut-être quelque chose de... Lorsqu'on a quelque chose de très spécifique et de très innovant comme ça, il y a peut-être une implication ou un travail plus serré entre chacun des départements pour que ça marche.
Quels sont les pays avec lesquels vous avez maintenant des relations intéressantes ?
Alors, je vous donne le top 5.
Tu me donnes le top 5.
Le premier pays dans lequel on a le plus de succès, c'est la Chine.
Oh.
On a pratiquement la moitié de notre base installée en Chine. Donc c'est un pays qui est très réceptif à l'innovation, qui n'a pas les inerties et les idées préconçues de quelque chose qui est déjà établi. Ils sont tout neufs en fait.
Oui, oui.
Et donc on vend très très bien en Chine. Mmh. La deuxième pays, c'est évidemment la France. Voilà, on est
bien sûr.
là, on a des gens extrêmement, on a des commerciaux incroyables ici en France. On est une équipe soudée, il y a une réactivité. Donc en France, on a plusieurs centaines de machines. On est dans pratiquement beaucoup d'hôpitaux en France, dans des cabinets de radiologie privés. Le troisième, c'est les États-Unis. Parce que c'est un très gros marché et que on ne peut pas ne pas être aux États-Unis. Et de manière assez cocasse, les deux suivants, c'est Israël et l'Iran qui se tirent la bourre pour la quatrième place.
Ah bon. Et donc avec Israël, y a de bonnes relations aussi, quoi.
Israël est un pays très intéressant pour nous parce que déjà, c'est une réussite commerciale. C'est un pays d'innovation, donc l'innovation est très bien adoptée. C'est un pays où on peut aussi apprendre beaucoup et donc du coup écouter et faire des nouvelles choses en fonction de leur retour. Oui. Et c'est un pays aussi où on peut tester des nouvelles choses parce qu'ils sont très preneurs de nouveautés. Et c'est aussi un pays où il y a une recherche qui est de très haut niveau. Et donc voilà, on a des relations avec le Ternion à Haïfa. Voilà. Ouais. Et on fait de la recherche et de la recherche avec eux, c'est évident.
Comment vous êtes protégé? Vous avez beaucoup de... Est-ce que vous êtes copié d'abord?
Oui, on est copié, mais heureusement.
Heureusement,
parce que sinon on serait Don Quichotte, après chaud au milieu de rien. Voilà, on a introduit une nouveauté. Pendant quelques années, on a été les seuls sur marché. Et maintenant, les gens se sont rendus compte que c'est utile, que ça a de la valeur. Et donc, tout le monde s'est mis à copier. Évidemment, on a gardé notre avance. On est la référence. On a des performances qui sont au-delà de ce que fait la compétition. Mais on est obligé d'avancer, quoi.
Vous êtes protégé par des brevets, je crois.
On est protégé par des brevets. Et puis, on décline cette espèce de cœur ultra rapide, on le décline pour faire plein de nouvelles choses. On ne va pas se cantonner à l'élastographie. On a dans les cartons plein de nouvelles choses pour encore se différencier des autres. Et donc, un exemple dont on discutait tout à l'heure pendant la chanson, c'est la maladie du foie gras. Puisque les Occidentaux ont décidé d'avoir un mode de vie qui est proche des canards qui se font gaver pour faire du foie gras. Bon, voilà, quand on mange et qu'on bouge pas, le foie devient gras. Et alors, ça peut paraître rigolo au départ, mais les Américains, par exemple, il y a pratiquement un Américain sur quatre qui a un foie gras sans le savoir. Et dans 15-20 ans, ça veut dire cirrhose et cancer. Donc ça, c'est une bombe à retardement. Et on s'intéresse à ça de très près. On travaille aussi avec les laboratoires pharmaceutiques parce que il faut le détecter tôt, ce foie gras, et il faut le soigner. Donc c'est un des enjeux que l'on regarde de très près sur le nouveau produit.
En particulier aux États-Unis, il y a aussi leur mode de nutrition. J'avais fait une émission il y a quelque temps sur les fast-foods. C'est quelque chose d'abominable.
C'est ça. Tout à fait. C'est une conséquence directe des fast-foods.
Eh bien, écoute, Jérémy, je crois qu'on est arrivé à la fin. Je me suis régalé à t'écouter. J'espère que nos auditeurs aussi, je suis même certain. Merci mille fois parce que je sais que tu es très, très occupé et tu as accepté de venir. Merci mille fois.
Merci à vous, j'ai passé un très, très bon moment.
Et puis voilà, on se retrouvera. En tout cas,
très bientôt.
Qu'on gardera le contact.
Avec
merci,
plaisir.
Bonsoir, chers amis. À la semaine prochaine.
C'était Judaïsme Pluriel. Chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.